Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Et d'ailleurs, pour cette dernière émission de l'année 2022, le sujet principal sera la fête de la musique libre. Avec également au programme la chronique de G sur numérique versus digital, et aussi la chronique de Luc sur vivre dans un monde meilleur. Nous allons parler de tout ça dans l'émission du jour. Soyez bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'association de l'émission, c'est libreavoue.org. Vous pouvez trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous avons ouvert d'ailleurs un questionnaire pour mieux vous connaître, auditeurs et auditrices de Libre à vous. Y répondre vous prendra 5 minutes et nous permettra d'évaluer l'impact de notre émission. Et c'est également une occasion pour vous de nous faire des retours et de nous aider à améliorer l'émission. Retrouvez le questionnaire sur le site libreavoue.org. Nous sommes mardi 20 décembre 2022, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission du jour, avec sa bonne humeur habituelle, ma collègue Isabelle Vanni. Bonjour Isa.
Bonjour Fred, bonne émission.
Merci, nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Nous allons commencer par la chronique Les Humeurs de G. G, auteur du blog BD Grise Bouille, vous expose son humeur du jour. Des frasques des GAFAM au monde numérique, en passant par les dernières lubies anti-internet de notre classe politique. Il partage ce qui l'énerve, l'interroge, le surprend ou l'enthousiasme, toujours avec humour. L'occasion peut-être, derrière les boutades, de faire un peu d'éducation populaire au numérique. Bonjour G.
Bonjour Fred.
Alors le thème du jour, numérique versus digital.
Exactement, et salut à toi public de Libre à vous donc. Tu le sais peut-être, avant d'être chroniqueur radio, comme l'a dit Fred, je suis aussi auteur de BD. Et au cours de ces chroniques, il est possible que je parle parfois d'actualité, mais il peut aussi arriver que je me base sur d'anciennes BD pour te parler de choses plus générales. Aujourd'hui, je vais donc te causer d'un sujet que j'ai déjà abordé en bande dessinée, les liens seront sur la page du podcast, et sur lequel les différentes communautés de la tech se fritent régulièrement. Numérique versus digital. Je t'explique. Tu as sans doute déjà entendu parler de transformation digitale ou de montre à affichage digital. Eh bien, sache que si tu emploies cet adjectif « digital » dans ces contextes, certaines personnes risquent de venir faire leurs intéressantes en te disant « Mais non, on ne dit pas digital, on dit numérique ». Alors, je suis bien obligé d'admettre que je fais partie de ce genre de casse-bonbon qui lutte ardemment contre l'usage du mot « digital » dans le sens qui se rapporte à l'informatique. Pourquoi ? Eh bien, faisons un petit point langue. À la racine de notre problème, on a le mot latin digitus, qui veut dire doigt. C'est à cause de digitus que doigt s'écrit avec un G silencieux, et c'est aussi de là que vient l'adjectif français digital, adjectif qui, tout à fait logiquement, désigne ce qui se rapporte au doigt, et qu'on utilise principalement dans l'expression empreinte digitale. Usage que personne ne conteste, hein, même pas les casse-bonbons susnommés. Là où ça se complique, c'est que le latin digitus a mené au mot anglais digit. Digit, en anglais, ça ne signifie pas doigt. Hein. Doigt, en anglais, c'est finger, comme dans finger in the nose. Non, digit, en anglais, ça veut dire chiffre. Alors, pourquoi le mot latin digitus pour doigt a donné le mot anglais digit pour chiffre ? Eh bien, tout simplement parce qu'en général, on apprend à compter sur les doigts. Voilà, c'est tout bête. De fait, lorsque les anglophones ont cherché un adjectif se rapportant aux chiffres, c'est tout simplement digital qui s'est imposé. Car encore une fois, chez les anglophones, la racine digit désigne un chiffre. En revanche, chez nous autres francophones, le mot « digital » n'a aucun rapport avec les chiffres ou les nombres ou quoi que ce soit dans ce domaine. « Digital » en français, ça parle des doigts, c'est tout. La traduction du « digital » anglais, c'est bien « numérique ». Alors, on me fera remarquer que le « digital » anglais se rapporte aux chiffres et le numérique français aux nombres. C'est vrai, mais c'est déjà assez le bazar comme ça, hein, alors « oh » et « un bon ». Un argument dont vous reconnaîtrez l'incroyable pertinence. Bref, tout ça c'est très joli, c'est très clair, digital en français ne se rapporte qu'au doigt, l'utilisation de digital en rapport avec l'informatique n'est qu'un vilain anglicisme pas beau que tout le monde devrait abandonner pour numérique, la traduction correcte de l'anglais digital. D'accord, ok. Sauf que là, j'ai une petite dissonance cognitive avec ce que je pense de la construction de la langue et des normes qu'on essaie d'imposer sur le français. Parce que, comment vous dire ? En tant que grand auditeur des chroniques de Laëlia Véron sur France Inter ou des podcasts de Linguisticae sur Internet, je suis assez persuadé que c'est l'usage qui fait la langue, et non pas des espèces de règles plus ou moins savantes imposées par une bande de couillons, quand bien même cette bande de couillons se rassemblerait à 40 dans un gros truc bien pompeux qu'on appellerait l'Académie française. Ouais, c'est l'usage qui fait la langue et son évolution. C'est pour ça que personnellement, je continue à dire LE Covid, malgré ce qu'en dit l'OMS, ou LA Game Boy, malgré ce qu'en dit Nintendo. Oui, si vous l'ignoriez, c'était LE Game Boy à la base. J'utilise aussi des termes de gaucho-wokiste comme autrice, parce que c'est pas plus idiot que actrice. Enfin, toutes les injonctions les plus péremptoires des vieux réacs de l'Académie ne me feront jamais remplacer follower par acolyte des illustres. Si, si, je vous assure. C'est une recommandation officielle de l'Académie française, il ne faut pas dire follower, mais acolyte des illustres. Je sais pas ce qu'il fume, mais franchement, il pourrait être sympa et faire tourner. Bon, j'en reviens donc à mon sujet. Si c'est l'usage qui fait la langue, et que les gens utilisent le mot « digital » comme synonyme de numérique, bah, est-ce que ça ne valide pas de fait cet usage? Alors, oui et non. Alors, vous pensiez tout de même pas que j'allais abandonner si facilement? Admettons que ça valide, pour « digital », un sens différent du sens premier qui se rapporte au doigt. Mais est-ce que ce sens est vraiment synonyme de numérique? C'est ce qu'on va voir. Bon, cherchons tout d'abord la définition de « numérisation ». Sur mon moteur de recherche, c'est Wikipédia qui tombe en premier et qui me dit « La numérisation est la conversion des informations d'un support ou d'un signal électrique en données numériques que des dispositifs informatiques ou d'électronique numérique pourront traiter. » Voilà, pour résumer, je passe un document papier dans un scanner, je récupère un fichier informatique fait de 0 et de 1, je l'ai numérisé. Passons maintenant à la définition de digitalisation. Et là, attention, on va être sur deux salles, deux ambiances, accrochez-vous à vos calfouettes. Tout d'abord, on tombe sur jeunetot.fr, qui nous dit « La digitalisation est une suite logique de l'évolution technologique et plus particulièrement d'Internet et de l'informatique. Désormais, tout peut se traiter en ligne et c'est le principe même de la digitalisation. Pour définir cette opération, on peut dire qu'il s'agit d'un procédé qui vise à transformer des processus traditionnels, des objets, des outils ou encore des professions, par le biais de technologies digitales, afin de les rendre plus performants. » Voilà. Des questions? Non, je sens que vous n'êtes pas encore convaincu, alors on va tout de suite lire le deuxième lien sur un site qui s'appelle Digital Conseil, digital avec deux L cette fois, hein, pour montrer que ça vole haut, j'imagine. Alors je cite, encore. La digitalisation d'un métier peut signifier que les processus et les méthodes de travail sont supportés par des solutions digitales, mais aussi que le rôle de l'informatique vient prendre une place prépondérante dans l'exécution des missions rattachées à ce métier. Quand cette digitalisation est conçue en collaboration avec les métiers concernés, cela permet de repositionner le rôle des collaborateurs et des tâches à forte valeur ajoutée et de créer de nouvelles opportunités de rentabilité. Ok, alors... Autant dans ma dernière chronique, je m'amusais d'avoir coché le bingo du gauchiste du web avec des mots comme émancipation ou éducation populaire, autant là, on serait plutôt sur un bingo de bon gros bullshit de start-upper. Non, je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Numérisation et numérique sont des termes techniques, des termes qui désignent des technologies basées sur le stockage et la manipulation de nombres, ça tombe sous le sens. En revanche, moi, quand j'entends digital ou digitalisation, mon premier réflexe est de chercher à comprendre ce qu'on essaie de me vendre. Digital, c'est un terme marketing qui pue le solutionnisme technologique à plein nez, avec toujours en sous-texte les logiques de performance et de rentabilité. Comment vous dire en termes simples, digital, c'est de droite. Non, si, à un moment, il faut dire les choses, voilà, c'est dit. Ah, j'ai même déjà entendu l'argument, je vous jure. Oui, mais les écrans tactiles, ça s'utilise avec les doigts, alors pourquoi on dirait pas digital? Comme ça, c'est encore plus parlant. Mais oui, hein, alors que chacun sait que quand on écrit avec un stylo, on le tient entre les dents, ça n'a rien à voir. Non mais vous voyez le truc. Face à une ambiguïté de sens, ici, entre digital les doigts et digital numérique, vous avez deux comportements possibles. Soit vous considérez que l'ambiguïté apporte de la confusion et qu'il vaut donc mieux la lever, c'est en général le comportement que vous avez si vous avez une démarche scientifique, éducative ou émancipatrice. Soit vous considérez que l'ambiguïté permet de semer un peu plus de confusion et de faire de jolies publicités enrobées de bons gloobie-boulga managérial, et hop, vous sautez les deux pieds dedans. Le résultat, c'est que quand on vous a vendu la transformation digitale, vous trouvez ça génial que votre N+1 vous donne un super smartphone, dernier cri, alors que si vous êtes calé en émancipation numérique, vous lui opposerez sans doute le droit à la déconnexion, et lui suggérerez par la même occasion de se carrer le fameux smartphone dans le fondement, avec doigté bien sûr pour le côté digital. Pour conclure, oui, en langue, c'est bien l'usage qui prime, Et quand je vois comment est utilisé le mot digital, bah j'ai d'autant plus envie de continuer à dire numérique. Sur ce, je vous souhaite une bonne émission, une bonne fin d'année, de joyeuses fêtes et je vous dis à l'année prochaine et salut.
Écoute, merci G. Alors, est-ce que la référence du « haut et un bon », c'est Nino Ferrer ?
Exactement.
Ah, ok. Donc, je me demandais si c'était du Nino Ferrer. Et sinon, c'est assez marrant parce que tu parles d'usage de langue et du mot « autrice ». Alors, en venant à l'émission, en fait, j'écoutais le dernier podcast « Les couilles sur la table » de Victoire Tuaillon, okay, qui était consacré justement au masculin neutre, écriture exclusive avec une invitée qui revenait justement sur l'historique où à l'époque, ces mots-là avaient été en fait déjà utilisés, qui sont revenus récemment en fait à l'usage. Donc, c'est assez marrant cette concordance de temps. Alors, tu dis, on va se retrouver en janvier 2023, on va même se retrouver dès le mardi 10 janvier 2023, parce que pour l'émission de rentrée, tu animeras notre sujet principal.
Exactement.
Tu as ce grand plaisir qui portera donc sur Aaron Swartz, cet informaticien militant des libertés informatiques et de la culture libre, qui est malheureusement décédé le 11 janvier 2013, à l'âge de 26 ans. C'est et donc ça. Pour les 10 ans de sa mort, on va faire une émission spéciale que tu auras le plaisir d'animer et de préparer et d'animer avec normalement deux invités dont on vous réserve le nom au début janvier. En tout cas, ce sera l'émission de rentrée mardi 10 janvier 2023.
Super.
En tout cas, merci G, et puis bonne fête de fin d'année, et puis donc au 10 janvier alors.
Au 10 janvier, oui.
Alors nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons de musique libre. En attendant, nous allons écouter Akilou par 6 février 1985. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Caché au creux de son bras, un joujou et un gros doudou. Elle se cache le bout du nez quand passent tous ces étrangers en serrant son gros doudou. Mais entre vous et nous, elle préfère son doudou. Pendant les jours de marché, elle doit voler pour manger comme Minou. Il la suit partout. Elle court après les touristes qui sont les spécialistes des sous et des gros bijoux. Mais entre vous et nous, elle préfère son doudou. Elle aime regarder les cortèges d'écoliers qui parcourent la rue tour à tour. J'aimerais vraiment y aller, moi aussi je veux jouer, savoir lire et pouvoir écrire. Mais entre vous et nous, elle préfère son doudou. Elle se chamaille avec son frère qui l'a fait tomber par terre un caillou, écorche le genou. Elle pleure sur ce trottoir et il est déjà bien tard. Sans un sou, les yeux se font flous. Même entre vous et nous, elle préfère son doudou. Pour ne pas être embêtée du carton et comme horizon, un genou tout écorché qui ne pourra être soigné sans un sou et sans vous et nous. Mais entre vous et nous, sans joie et sans un sou, que penser de l'humain quand personne se tend la main? Car elle est née sans un sou au milieu du Darfour. Y a la bien faire un tour avec toi et un peu d'amour.
Nous venons d'écouter Akilou par le groupe 6 février 1980 simple. Disponible sous licence Art Libre.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Passons maintenant au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va être une rediffusion. En effet, nous ne pouvons pas vous présenter le sujet initialement prévu, nous en parlerons début 2023. À la place, nous allons réécouter la diffusion d'un sujet diffusé en direct le 21 juin 2022 intitulé « La fête de la musique libre » avec des interviews d'artistes qui diffusent leur musique sous licence libre. Le sujet avait été préparé et animé par mon collègue Étienne Gonieux. On se retrouve dans 50 minutes.
Alors pour cette émission spéciale Fête de la musique libre, nous avons voulu donner la parole à des artistes qui publient leur musique sous licence libre. Et nous avons déjà des musiques dont nous avons déjà diffusées dans Libre à vous. Nous entendrons donc Corentin des Gueules Noires qui interviendra en direct par téléphone, Minda Lacey, une artiste américaine dont nous avons enregistré et traduit l'interview. Et avant cela, je vous propose d'écouter Thibaut Dallery du projet musical Lumpini, interview que nous avons également préenregistrée faute de disponibilité ce jour. On écoute donc cet échange et on se retrouve juste après, toujours sur Cause Commune, la voix des possibles. J'ai le plaisir de recevoir Thibaut Dallery avec moi aujourd'hui dans cette émission spéciale sur la musique libre, sur la musique, en ce 21 juin. Donc Thibaut, bonjour.
Bonjour, bonjour Étienne.
Ah bah, est-ce que vous pourriez déjà vous présenter, s'il vous plaît ?
Oui, bah alors je m'appelle Thibaut Dallery, j'ai 30 ans, et voilà, là je viens parler de mon projet qui s'appelle Lumpini. Donc c'est un projet, de composition que j'ai réalisé là sur les dernières années. En fait, l'idée c'était de finaliser puis d'enregistrer plusieurs compos que j'avais créés depuis longtemps, depuis certaines 10-15 ans quand j'étais au lycée, et voilà, j'ai eu l'inspiration et l'idée d'enfin les finaliser, et ça a donné ce projet à Lumpini.
Super, Lumpini, on précise, je crois que c'était il y a une ou deux semaines, on a diffusé effectivement un de vos morceaux, parce que l'album est sous licence libre, on y reviendra plus tard. Donc vous êtes musicien professionnel, c'est une passion que vous avez depuis longtemps?
Ouais, alors c'est pas mon métier. Là, je suis professeur des écoles, mais c'est une passion que j'ai. J'ai commencé à 13 ans et ça m'a pas lâché. Donc c'est une passion super importante que j'essaie de poursuivre.
Vous faites, qu'est-ce que vous faites jouer comme instrument ?
Je joue de la guitare principalement. C'est surtout ça que je joue là sur ce projet, avec un petit peu de basse aussi et de clavier. Mais voilà, l'idée là sur ce projet-là, c'était de moi surtout de jouer de la guitare, et puis pour tout ce que j'ai du mal à jouer comme instrument, donc il y a aussi de la batterie, du saxophone, il y a un peu de flûte, et puis des parties de basse et de clavier compliquées, j'ai demandé aux copains qui font ça beaucoup mieux que moi.
Du coup, c'est un projet entre amis, si je comprends bien ce que vous me dites.
Ouais, c'est ça. Bon, par contre, j'avais joué aussi dans plusieurs groupes avant, là c'était vraiment l'idée de prendre des compos à moi, de faire tous les arrangements et puis après de donner un matériel un peu déjà bien ficelé voilà, aux musiciens.
Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner un peu plus de détails justement sur l'histoire, sur la genèse de ce projet, comment vous l'avez construit, donc sur plusieurs années, ce que vous me dites. Je crois vous avez fait un album sur c'est le résultat de ce projet pour le moment, si je me trompe pas. Vous pourrez me corriger bien sûr.
Ouais, c'est ça, et en fait, comme je disais, oui, l'idée c'était de finaliser des compositions que j'avais depuis longtemps, et en fait ce qui m'a un peu donné le déclic, c'est j'ai eu l'occasion de vivre en Thaïlande, et j'ai rencontré là-bas un musicien qui était très fort pour faire ça, pour arriver avec des compos, et puis trouver des musiciens, les jouer, les enregistrer, tout ça en quelques mois, et voilà, moi je me rendais compte que j'avais des morceaux qui traînaient depuis longtemps, donc en rentrant en fait... voilà, j'ai acheté le matos pour enregistrer, et puis ça m'a donné l'inspiration pour essayer d'aller jusqu'au bout de ce projet. Et voilà, du coup, d'ailleurs, il y a une référence à la Thaïlande dans le nom du projet, puisqu'il s'appelle Lumpini. Lumpini, c'est un parc à Bangkok. C'est aussi la forêt dans laquelle est né le Bouddha, suivant la légende. C'est aussi un stade de boxe thaïlandaise. Donc voilà, ça m'amusait d'avoir ce mot qui a plein de connotations et puis qui fait référence à la Thaïlande comme nom du projet aussi.
Et
dans cette démarche, parce que je trouve que la qualité, enfin moi je trouve la, enfin j'ai pris énormément de plaisir à écouter tout l'album et pas seulement le morceau qu'on a déjà pu diffuser, Elevating. Et je trouve que la qualité remarquable, enfin je dirais vraiment que ça a été enregistré dans des conditions professionnelles. Donc, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a eu des difficultés que vous avez dû entre guillemets surmonter dans la réalisation de ce projet? Ça s'est passé relativement facilement?
Déjà merci, ça fait plaisir d'entendre ça. On n'a pas fait ça dans un studio pro, ça a été vraiment chacun chez soi avec son matériel. Donc c'est une carte son et puis un logiciel, un séquenceur quoi, pour pouvoir ensuite mettre ensemble tous les morceaux. Et puis après il y a eu quand même un long travail de mix et de mastering, donc c'est les deux étapes une fois que tout a été enregistré. Et c'est ça je pense qui a permis d'améliorer et de vraiment faire prendre un peu de niveau au rendu sonore quoi. Donc ça a été assez long mais finalement voilà, ça permettait de bien avancer avec des enregistrements de base finalement assez simples et assez modestes quoi.
Et vous, comment vous qualifieriez, alors je pense que c'est pas toujours facile de qualifier un style sur une musique parce que ça enferme peut-être, mais bon, si vous deviez décrire ce qu'est la musique Lumpini.
Ouais, en effet, c'est pas facile. Je pense qu'il y a peut-être ce qui est au centre, c'est quand même la liberté instrumentale. C'est la musique instrumentale déjà, et ce qui était important pour moi, c'est d'avoir la liberté instrumentale qu'on retrouve dans le jazz, par exemple, avec beaucoup d'impro, beaucoup d'improvisation. Je pense qu'il y a aussi l'énergie du rock, parce que c'était pas mal cette musique que j'écoutais aussi à l'époque où j'ai composé la plupart de ces morceaux. Il y a un peu des couleurs aussi, des couleurs orientales parfois, et puis tout un travail sur la progression de l'énergie. Donc par exemple, comme on peut retrouver dans du rock progressif ou du post-rock. Voilà, donc il y a un petit peu de tout ça, et puis peut-être encore d'autres choses, je ne sais pas.
En tout cas, c'est la manière dont vous avez décrit me fait écho, en tout cas, à ce que j'ai pu ressentir en écoutant la musique. Alors c'est vrai que moi, quand j'écoute, je ne suis pas du tout... j'aime écouter de la musique comme... beaucoup de gens, mais j'ai pas une oreille du tout professionnelle, mais experte. Mais j'aime bien, c'est vrai, quand j'écoute de la musique, retrouver un petit grain de folie dans la musique, et c'est un peu ce que j'ai ressenti en écoutant Lumpini. Est-ce que ça vous parle si je vous dis ça?
Ouais, ça me parle. Bah, c'était un peu l'idée aussi. Et là, le morceau qu'on va écouter, c'est peut-être le moins aventurier, le plus. Oui, voilà, on peut dire ça, le moins aventureux. Il y a des morceaux sur lesquels c'est assez expérimental. Du coup, oui, je vous invite, si le petit aperçu qu'on va avoir là vous plaît, à écouter aussi les 5 autres titres qui sont... c'était aussi l'idée de prendre un peu des risques avec la musique et de voir où est-ce que ça peut nous amener.
De toute manière, vous l'avez décrit, de toute façon, j'ai l'impression que pour vous, le but, c'était de vous faire plaisir.
Oui, c'est ça. Comme je disais, moi, c'est pas mon métier, donc j'ai pas vraiment d'impératif. C'est vraiment j'ai la chance de pouvoir faire la musique comme je l'entends, et puis avec des amis aussi qui suivent. Donc, c'était vraiment pour le plaisir et puis voir un petit peu ce que ça pouvait donner en poussant ce processus d'enregistrement jusqu'au bout.
Alors effectivement, vous avez dit on va écouter après notre échange le morceau Elevating. Bien sûr, nous invitons toutes les personnes qui nous écoutent à découvrir tout l'album. Comme vous disiez, il y a 5 morceaux. On mettra le lien sur la page de l'émission pour que les personnes puissent le retrouver facilement. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un peu plus précisément, vous avez déjà commencé à le faire, mais un peu plus précisément de ce qu'est ce morceau Elevating, comment vous l'avez construit, qu'est-ce que...
Ouais, donc c'est un morceau, c'est celui qui laisse le plus de place à la guitare. Donc il commence par une intro avec des harmoniques de guitare. Ensuite un thème un petit peu plus rythmé, une mélodie un peu plus rythmée. Et puis ça évolue ensuite vers une deuxième partie qui est un peu plus rock, un peu plus lourde, avec des. L'idée c'était aussi là d'utiliser la guitare pour avoir des sons un peu qui nous enveloppent, qui viennent un peu de tous les côtés et puis qui deviennent de plus en plus denses. Et ensuite, ça se résout un petit peu sur une partie plus calme aussi vers la fin. Voilà.
Ben, nous allons écouter ça juste après l'échange, mais j'aurais quand même une dernière question pour vous, parce que c'est vrai que nous, dans Libre à vous, comme nous diffusons exclusivement des musiques sous licence libre, et c'est parce que vous avez placé votre musique sous licence libre que nous avons eu le plaisir de la diffuser. Quelle Quelle place prend ce choix? Est-ce que ça s'est fait juste comme ça parce que c'était pas le but de faire de l'argent? Est-ce qu'il y a vraiment une conviction derrière sur la libre diffusion de votre musique? Quelle était votre démarche?
Oui. Bah, je suis pas un spécialiste des licences libres, mais c'était quand même important pour moi, que ce soit en diffusion libre. Et puis, il y a aussi toute une réflexion quand même sur la propriété en général, et puis encore plus dans l'art. Je trouve que quand on fait de la musique, on est vraiment influencé par tout un tas de choses, et c'est assez difficile de dire, ça c'est ma musique et ça m'appartient. Moi, je vois pas les choses comme ça. Donc, ça reflétait ça. Et puis, je pense qu'il y a aussi un lien avec... dans le jazz, il y a cette tradition de reprendre des morceaux, reprendre des standards. Et voilà, chaque groupe, chaque artiste en fait sa version. Et du coup, c'est un peu s'inscrire là-dedans. Et moi, je serais très content si des gens veulent reprendre les morceaux et même faire quelque chose à partir de ce matériel avec grand plaisir. Donc, c'était aussi cette idée-là.
Et c'est amusant parce que la manière dont vous décrivez cela, ça, je pense que c'est vraiment dans l'idée de l'éthique, hein, du logiciel libre, et je pense notamment dans cette idée de récupérer ce qui a pu être développé ailleurs, de construire ensemble, que il n'y a pas une propriété exclusive, parce que la progression, qu'elle soit créative ou technologique, elle est incrémentale, etc. Donc le pont entre la création musicale et le logiciel, je le trouve finalement très amusant et intéressant, quoi. C'est ça dit beaucoup sur la connaissance en général. Écoutez, un grand merci pour ce temps d'échange, Thibaut. Et puis, nous allons écouter après cela le morceau Elevating. Et puis, je vous souhaite une excellente journée.
Merci beaucoup à vous et pour la diffusion et puis pour cet échange. Et puis, très bonne journée également. Merci.
Voilà, comme nous l'évoquions en fin d'interview, nous allons donc écouter Elevating par Lumpini. On se retrouve dans environ 5 minutes. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune. 93.1.
Nous venons d'écouter Elevating par Lumpini, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Merci encore à Thibaut Dallery de nous avoir consacré du temps et nous vous encourageons vivement à écouter tout l'album.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Alors pour notre deuxième interview, j'ai normalement le plaisir d'avoir avec moi au téléphone Corentin des Gueules Noires. Bonjour Corentin.
Bonjour Étienne, merci pour l'invitation.
Merci de prendre ce temps pour échanger avec nous. Bon, je vais commencer de manière très classique. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît?
Oui, bien sûr. Je m'appelle Corentin, j'ai 29 ans. Je suis saxophoniste dans le groupe Les Gueules Noires. Les Gueules Noires, c'est un groupe du nord de la France qui existe depuis maintenant 10 ans. Et on est avant tout une bande de jeunes amis qui sont pour la plupart rencontrés au lycée et qui avons appris la musique dans des écoles de musique où certains ont eu la chance de faire quelques petites années en conservatoire. Et voilà, on s'amusait bien, on faisait des soirées ensemble, on écrivait un peu de musique. Et voilà, c'est un peu un projet amateur pour se faire plaisir et pour faire plaisir aux copains.
Et qui est continue toujours actif.
Qui est toujours actif. Alors c'est de plus en plus dur parce que c'est vrai qu'en grandissant avec l'âge, on a tous des parcours professionnels un peu différents, des familles, mais on essaye de garder le projet quand même en vie et de pouvoir se revoir de temps en temps.
D'accord. Alors musicalement, comment vous définiriez le style des Gueules Noires? Je sais que c'est pas
alors,
forcément une question facile.
On s'est, bien sûr, on s'est longtemps revendiqué du ska. Donc le ska, pour les gens qui ne connaissent pas très bien, ça s'écrit S-K-A, et c'est une sorte d'ancêtre du reggae, qui était une musique un peu festive pour danser en Jamaïque, qui s'est ensuite exportée en Angleterre dans les années 70, fin des années 70, début des années 80, avec des groupes comme Madness ou The Specials. Et ensuite, ça s'est réparti un peu partout dans le monde. Et voilà, donc c'était l'idée d'avoir une musique un peu festive, un peu cuivrée, avec voilà du côté rock, qui tire un peu sur le punk de temps en temps. Et voilà, en France, on appelle souvent ça plutôt du rock alternatif dans son ensemble. Voilà, ça mélange pas mal de styles.
Et alors, vous pourrez me corriger si je me trompe, mais j'ai quand même l'impression que le ska et le punk sont quand même des musiques qui sont souvent assez politiques, et j'ai l'impression aussi que c'est le cas des Gueules Noires quand on écoute les paroles.
Oui, en effet, on a toujours été plutôt ancré à gauche. Voilà, c'est un peu... Ben, on vient de là, on était une bande d'amis toujours un peu en manif, on aimait beaucoup parler de politique, on avait tous des engagements un peu différents, donc ça faisait des soirées de conversation un peu animées, voilà, mais on aimait bien avoir quand même jouer dans des soirées voilà, pour des causes ou des choses comme ça, essayer de voilà, faire passer un message et en même temps passer un bon moment. Voilà, c'était un peu cette idée-là.
D'accord, donc la lutte, la joie dans la lutte.
C'est un peu ça, c'est une ambiguïté qu'on retrouve un peu dans la musique, qui a un côté un peu festif et un peu triste et un peu revendicatif. Voilà, on passe un peu par toutes les palettes des émotions.
Et du coup, j'imagine bien que le nom Les Gueules Noires n'est pas complètement anodin.
Voilà, ça faisait référence aux mineurs du nord de la France qui travaillaient dans les mines de charbon qu'on appelait Les Gueules Noires. On a trouvé rigolo de reprendre ce nom-là aussi pour une forme d'hommage et une forme de message. Voilà.
Et puisqu'on parle justement de politique, je trouve que de notre point de vue, le choix de mettre sous licence libre est plutôt quelque chose de politique. Est-ce que c'est le cas? Pourquoi est-ce que vous avez placé votre musique sous licence libre?
Ben, en fait, nous, ça a été un peu une sorte de rébellion anti-SACEM et anti-société de gestion de droit, parce que on a été assez embêtés en tant que musicien amateur, on va dire, dans toutes les salles de concert où on allait, où on nous demandait de signer des déclarations de SACEM, alors qu'on n'était pas membre de la SACEM et on voulait pas l'être. On a aussi eu... là où on s'est renseigné quand même, on a regardé la SACEM, comment ça fonctionnait, et on a vu les contrats, on a vu des clauses qui nous plaisaient pas trop. Déjà, je crois que c'était 200 € l'inscription par membre, vu qu'on est 6 musiciens amateurs. ça fait déjà très cher, donc de l'argent un peu perdu qu'on récupérera jamais. Ensuite, c'était un peu une sorte de la SACEM. Et puis aussi dans les contrats, il y avait le fait de quand on adhérait à la SACEM, il y a des clauses de confidentialité qui nous empêchent de critiquer ce que fait la SACEM. Donc c'est pour ça que vous entendrez pas beaucoup les musiciens se plaindre de la SACEM, c'est qu'ils souvent ils ont pas le droit, c'est dans leur contrat. Et donc on n'avait pas trop envie de signer ça. On a aussi été à l'époque. On est de la génération qui a grandi aussi dans les années 2000, donc pour nous on a beaucoup téléchargé illégalement de la musique sur des lecteurs MP3, sur des CD gravés, et on avait aussi envie que notre musique puisse se diffuser à travers le monde. Les licences libres, ça nous a un peu permis ça aussi, où on a vu que notre musique se retrouvait sur des blogs de musique mexicaine, de gens qu'on n'avait jamais vus, jamais entendus. Et voilà, c'est aussi ça l'avantage de la musique libre, c'est que il n'y a pas beaucoup de musiciens qui en font, et du coup ça se diffuse très rapidement et très largement, il n'y a pas de restriction.
Et c'est comme ça que vous êtes retrouvé à passer sur Radio Cause Commune et à faire cette interview aussi. Alors du coup, de ce que je comprends, vous faites beaucoup de concerts. Visiblement, vous avez aussi enregistré en studio. Vous faites des deux. Vous avez une préférence. Quelle est
C'est ça. Alors, on avait enregistré un premier album en studio, et là, pour le dernier petit album de 4 titres qu'on a sorti, on avait voulu se lancer le défi de faire un enregistrement live. Donc du coup, c'est un peu plus brut, on va dire. On voulait essayer de retrouver l'énergie des concerts. Donc on a enregistré ça dans un théâtre, juste avant le confinement d'ailleurs. Et on avait un théâtre, des micros, et on s'est dit, allez, on va essayer d'enregistrer ça avec presque pas de retouches au final, et pour voir ce que ça donne. C'était un peu une expérience.
D'accord, ça me fait quand même penser un peu à cet esprit ska peut-être que vous avez décrit.
C'est ça.
Alors une question qu'un auditeur de Libre à vous que j'ai relayé, pardon, il me demande pourquoi il aimait demander aux musiciens pourquoi ils avaient choisi leur instrument. Je trouve que c'est effectivement une assez chouette question. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire du saxophone?
Ah, c'est une bonne question. À la base, moi, quand j'étais petit, j'avais commencé par apprendre de l'orgue. Alors j'ai commencé la musique très jeune, j'avais 6 ans, et comme une réflexion pas très évoluée d'un enfant de 6 ans, j'ai voulu arrêter l'orgue parce que je trouvais qu'on faisait pas assez de rock'n'roll. Et du coup, j'ai regardé les autres instruments, j'ai changé, je suis arrivé dans une école de musique dans un petit village. Et voilà, je découvrais un peu les cuivres, l'harmonie, et je me suis dit, le saxophone, il faut voir que dans le nord de la France aussi, on est un endroit en France où il y a beaucoup d'orchestres, beaucoup d'harmonie, et donc on est un peu bercé par ces instruments-là, et je pense que ça a joué un peu inconsciemment sur mon choix de prendre le saxophone comme instrument.
D'accord, cool. Autre question, du coup, vous jouez. J'ai l'impression que vous jouez peut-être un petit peu moins souvent, parce que vous disiez justement, effectivement, la vie fait que. Mais vous jouez surtout, et vous avez joué surtout dans le Nord, partout en France, peut-être aussi en Belgique.
On joue beaucoup dans le Nord de la France et en Belgique. On a eu l'occasion, c'était il y a quelques années, de faire un petit festival en Angleterre, où on a pu rencontrer un peu toutes nos idoles. Après, c'est vrai l'organisation, les difficultés d'organisation font que c'est beaucoup plus facile pour nous de rester dans le nord de la France. Après, on est ouvert aux propositions.
Écoutez, si les gens nous écoutent et qu'ils ont envie de vous contacter, en passant par votre page Bandcamp, j'imagine qu'il est possible, parce que c'est comme ça que je vous ai contacté, donc je sais que c'est possible. Et vous avez répondu en plus très vite, donc vraiment, si vous avez envie de prendre contact, je vous encourage à le faire, effectivement. Je vais relayer une autre question d'un autre auditeur qui constate qu'effectivement, dans le mouvement punk, il est assez, l'utilisation de licence libre n'est vraiment pas très courante, aussi bien dans la musique que le graphisme. Alors vous avez fait le choix de la licence libre, est-ce que c'est quelque chose que vous constatez, vous avez une explication? Ou pas du tout?
Je pense que c'est surtout une méconnaissance, en fait, parce que je pense que la plupart des musiciens qui sont un peu dans le punk et dans les musiques alternatives, on les entend beaucoup se plaindre de la SACEM, mais je crois que c'est juste une méconnaissance du sujet. C'est pas très connu chez les musiciens, les licences libres. Je sais qu'il y a un musicien punk qui utilise beaucoup les licences libres et qu'on aime bien, qui s'appelle Pringard. Et voilà, mais c'est vrai que sinon, je pense que c'est surtout un manque de connaissance du milieu de la musique. Ça se faisait un petit peu dans les années 2000, mais c'est vrai que ça s'est un peu perdu. Et je pense que c'est aussi lié au fait que les nouveaux usages et l'arrivée du rap, les nouvelles plateformes Internet ont réussi à adapter. C'est beaucoup plus facile d'adhérer à la SACEM aujourd'hui ou de mettre de la musique sur des plateformes que ce que c'était quand on a commencé. Donc il y a une certaine prise en compte, d'une certaine manière, les râleurs comme nous, on a dû un peu jouer sur la SACEM qui a dû sûrement changer ses façons de faire et essayer de simplifier et de s'adapter aux demandes des nouveaux musiciens.
Alors nous allons diffuser après notre échange un morceau de votre choix, hein. Vous avez choisi de nous proposer d'écouter L'Usine. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce morceau?
Oui, bien sûr. En fait, c'était un morceau qu'on avait écrit. À la base, la musique avait été écrite il y a 2013-2014. Et après, on a voulu la reprendre vers 2016 dans mes souvenirs. Et c'était un peu le moment où on parlait des conflits. On a un musicien qui est originaire de Saint-Saulve dans le Nord, et il y avait conflit de l'usine ArcelorMittal. Donc voilà, on a été un peu inspiré par ces événements et par ce qu'on voyait, par ce qu'on vivait.
Nous allons écouter ça juste après. Alors, juste, vous avez parlé, il me semble, de Prince Ringard, parce que le son a un peu sauté. C'était lui l'artiste?
Oui, c'est ça, Prince Ringard.
On a diffusé un de ses morceaux, et c'est effectivement, c'est vraiment génial, Prince Ringard. Je remettrai le lien sur la page de l'émission pour inviter les personnes à écouter. C'est vrai que il a une voix extraordinaire. Écoutez, merci beaucoup, Corentin. Je vous souhaite vraiment le meilleur, notamment dans vos projets musicaux. Et puis, une bonne fin de journée, et puis une bonne fête de la musique.
Merci, et bonne fête de la musique.
Vous allez jouer aujourd'hui?
À bientôt. Ah non, aujourd'hui on écoute les musiciens.
D'accord, c'est bien aussi, ça marche. Allez, bonne fin de journée.
Bonne fin de journée.
Alors, un grand merci à Corentin de s'être rendu disponible pour cette interview. Et nous allons donc écouter, comme nous l'avons mentionné, L'Usine par Les Gueules Noires. On se retrouve dans environ 5 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Le jour se lèvera sans doute à la dernière goutte de sang. chacun prendra sa route, espérant vivre autrement. Politique passe avec des discours triomphaux, mais les paroles s'effacent abandonnant les métallos. Si les machines nous remplacent, partageons le boulot. Et si au pôle de la glace, ne produisons que ce qu'il nous faut. Les armes de ces combattants qui en posant les larmes tentent de vivre autrement. Et le jour se lèvera sans doute à la dernière goutte de sang. Chacun reprendra sa route espérant vivre autrement.
L'usine par Les Gueules Noires, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Un grand merci encore à Corentin de nous avoir donné ce temps. Une musique qui donne envie de danser et de lutter.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Pour notre dernière interview de cette émission faite de la musique libre, j'ai eu le grand plaisir d'échanger avec Minda Lacy, une artiste que nous aimons vraiment beaucoup à Libre à vous et dont nous avons déjà diffusé plusieurs morceaux. Alors pour des raisons évidentes de distance et de besoin de traduction, nous avons préenregistré le sujet la semaine dernière. Laure-Élise Deniel, que je remercie chaudement, a prêté sa voix pour enregistrer une version française. Je rappelle que Laure-Élise Deniel prête déjà sa voix au jingle de Libre à vous. Je vous propose donc d'écouter Minda Lacy. On se retrouve dans environ 15 minutes.
Bonjour Minda Lacy. Je précise que nous enregistrons cette interview parce que vous vivez sur la côte ouest américaine où il est 9 heures plus tôt qu'en France.
Oui, c'est vrai, il est 9h52 du matin et je me suis réveillée il n'y a pas longtemps. Ce sont des fuseaux horaires très différents.
Alors, c'est un plaisir de vous recevoir pour cette émission spéciale Fête de la musique, car nous avons diffusé plusieurs de vos morceaux et nous sommes vraiment de grands fans de votre musique. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter déjà, s'il vous plaît ?
Oui, c'est toujours une drôle de question. Présentez-vous, tout votre être, en quelques mots. En ce qui concerne ma musique, J'ai écrit des chansons presque toute ma vie. Je joue de la guitare depuis que je suis enfant et j'ai toujours aimé jouer avec les mots et penser à des choses. Je pense que pour écrire mes chansons, je puise beaucoup dans cette idée de comprendre les choses comme des questionnements philosophiques, des questions personnelles, des questions sur les relations avec ses amis. J'ai indéniablement une préoccupation pour des choses comme le temps, la mort, les insectes, mais pas d'une manière sombre ou triste, c'est plutôt une préoccupation joyeuse avec un cœur léger. C'est une sorte d'endroit curieux. Je pense que l'écriture de mes chansons, ma musique, puise sa source dans une exploration curieuse. Quand j'ai demandé à une de mes bonnes amies, Brooklyn, de décrire ma musique, elle a eu la meilleure explication et je l'utilise souvent. Elle a dit « C'est comme du folk lyrique avec un fond vaguement morbide et psychédélique et une douceur tout en légèreté qui rappelle une douce brise qui soufflerait dans la fourrure du ventre d'un chinchilla. »
Donc vous jouez de la guitare, vous écrivez des chansons, on peut dire que vous êtes vraiment une artiste complète.
Oui, la guitare est mon premier instrument et c'est clairement celui avec lequel je suis la plus à l'aise. Et je pense que l'énergie créative vient indéniablement de la composition musicale qu'elle permet. Je suis aussi clairement en train de grandir en tant que musicienne et c'est comme un chemin constant où j'apprends tout ce que je peux apprendre. Et si la guitare est mon instrument de prédilection, j'explore aussi le piano, le ukulélé, et j'ai récemment acquis un synthétiseur. J'ai un ami qui m'en a vendu un pas cher. Et je m'amuse aussi un peu avec l'accordéon. J'essaye d'intégrer davantage d'instruments, mais vraiment la guitare est l'instrument avec lequel je suis la plus à l'aise, et c'est celui avec lequel c'est le plus facile d'enclencher le processus d'écriture de chansons. En fait, le ukulélé est un instrument très facile à jouer, et j'encourage tout le monde à jouer du ukulélé. On peut y arriver en quelques semaines à peine, et après vous avez un outil pour commencer à écrire des chansons. La guitare et le ukulélé sont vraiment de bonnes bases pour le processus d'écriture de chansons.
Est-ce que vous avez des influences musicales particulières qui vous tiennent à cœur ?
Alors, quand on me pose cette question, c'est intéressant parce que j'ai le sentiment que je n'ai jamais essayé de ressembler à un autre musicien, même si, bien sûr, il y en a beaucoup que j'aime. J'ai le sentiment que la musique, en général, pas juste la mienne, a une place très importante pour moi et je la ressens à un niveau viscéral. Certains artistes me touchent et m'amènent dans cet état d'esprit créatif, mais la manière dont je traduis cette énergie créative est très différente de la manière dont ils le font. Certaines de mes influences, certains de mes musiciens préférés, ah là là, il y en a tellement. Parfois, quand je me pose cette question, j'ai l'impression d'oublier absolument tous les musiciens que j'ai jamais écoutés. J'aime beaucoup Tom Waits, Andrew Bird's Ball of Fire, ce qu'il a fait avec son groupe Ball of Fire. J'aime beaucoup aussi Pink Floyd, tous les classiques du rock, Led Zeppelin, Queen. Il y a beaucoup de musiciens locaux ou de musiciens avec qui je suis amie qui m'ont beaucoup influencé et je veux toujours les saluer. Il y a une telle culture musicale, toute cette musique si riche qui vient de personnes autres que celles dont on entend toujours parler. Je pense que un de mes groupes préférés de tous les temps s'appelle Run on Sentence, qui est local de Portland et de Silver City. Moi, j'ai grandi à Silver City, alors c'est comme s'il était un local dans deux endroits où j'ai vécu. Il faut écouter Run on Sentence, vraiment. Sa musique me permet indéniablement d'atteindre un état d'esprit créatif. J'aime beaucoup Lassa de Sela. Voyons voir. Il y en a tellement que je pourrais juste continuer sans m'arrêter. Je fais que lister celles et ceux qui me viennent à l'esprit là maintenant.
Alors vous jouez plutôt en solo, je crois que vous jouez aussi dans des groupes, vous avez plusieurs projets musicaux.
Oui, j'ai effectivement plusieurs projets musicaux. Je joue en solo, et c'est ce que vous pouvez trouver sous le nom de Mindy Lacey. Et je joue aussi dans mon groupe, Bitches in the Beehive. Je joue des morceaux de Mindy Lacey avec le groupe, et je joue des morceaux de Bitches in the Beehive juste en tant que Mindy Lacey. Je ressens certaines chansons comme étant clairement les miennes, et d'autres comme étant clairement celles du groupe. Et récemment, j'ai commencé un nouveau projet. J'anime une émission de radio sur une radio locale à Portland qui s'appelle Shady Pines Radio. C'est une web radio et tout le monde en France devrait y jeter une oreille d'ailleurs. C'est plein de DJ qui font des trucs bizarres. Et j'interview des musiciens, juste des interviews un peu improvisées où je pose des questions que l'on ne pose pas habituellement. Et j'avais reçu un invité, Luke Anthony, qui joue très bien de l'harmonica. Il en joue d'une manière très spécifique que peu de personnes jouent. Je l'ai reçu pour une interview et on a connecté à un niveau musical. Ces derniers mois, on a écrit plein de chansons ensemble, on a réfléchi à un nouveau nom de groupe, on a fait des brainstorming pour trouver un nom de groupe. On n'a toujours pas trouvé de nom, mais je pense qu'on va faire des choses très très cool avec ce projet. Alors oui, pour le moment, trois projets donc. Sur Bandcamp, j'ai aussi publié un autre projet sous le nom de Just Buns, qui n'était que des amis et moi qui faisions un jam. Juste des amis qui avons eu l'opportunité d'enregistrer quelque chose avec le même gars qui avait enregistré mes albums, All Faces et Worms. Alors on est juste allé au studio, on a accroché un microphone au milieu de la pièce et on a juste joué. Sans vraiment s'entraîner, mais je pense que le résultat est vraiment très bon. C'était juste un truc unique, des amis qui jamment ensemble et on trouve un nom sur le moment. Voilà pour mes projets musicaux.
Vous jouez plutôt live, vous jouez plutôt en des enregistrements, vous avez une préférence entre les deux ?
J'aime bien jouer en live. Je joue en live à Portland et aux alentours avec mes deux projets, Bitches in the Beehive et mon projet solo. Je dois probablement jouer au moins une fois par mois dans des endroits très très différents. J'ai fait des tours do-it-yourself à travers l'état de l'Oregon où je contactais des lieux de spectacle et je montais dans mon van et je partais. Ça, c'était très amusant. J'aime aussi beaucoup le processus d'enregistrement. Je suis en train d'enregistrer un nouvel album qui, je pense, sera vraiment un bon album sous mon projet solo, Mindy Lacey, et qui sortira en février. Tout le processus d'enregistrement est vraiment amusant parce qu'on peut juste revenir, tatillonner et bidouiller des trucs et juste se dire je me demande si du synthétiseur ce serait bien ici ou du piano. Donc jouer en live et en studio, c'est deux expériences très très différentes et j'aime les deux.
Une question assez classique, est-ce que c'est vous tirez un revenu de votre musique et est-ce que c'est même un objectif ?
Alors oui, j'ai vraiment beaucoup réfléchi à cette question. Et oui, c'est le but. Je gagne de l'argent avec ma musique. J'ai mon compte Patreon auquel les personnes peuvent s'abonner pour $1 par mois ou plus si elles le souhaitent. Et j'y publie des chansons avant de les publier ailleurs ou des chansons que je ne publierai peut-être jamais. Et aussi des sortes de flâneries créatives. Et j'ai eu plusieurs patronnes au fil des ans, et clairement, c'est loin d'être au niveau d'un salaire, mais ça fait partie de mes revenus en tant que musicienne. En tant que groupe, on ne gagne pas vraiment d'argent, car tout ce qu'on gagne est partagé entre les membres du groupe, ou alors c'est réinjecté directement dans les projets du groupe. En faisant des tournées solo, tu peux arriver à te faire beaucoup d'argent, mais il faut que ce mode de vie te convienne. Au final, je pense que mes réflexions vont plus loin que ça, dans le sens que, en tant qu'artiste de tout type, on veut trouver une manière de passer notre temps à faire ce qu'on aime et à réaliser ce qu'on pense être fait pour. Mais le revers de la médaille, parfois, c'est que faire de ce qu'on aime son travail, ça enlève le plaisir qu'on y prend. Et c'est un exercice d'équilibriste. Pour avoir le temps de le faire, tu ne peux pas passer du temps à faire d'autres choses. Mais tu ne veux pas non plus que cet endroit sacré, magnifique et joyeux d'écriture musicale devienne quelque chose de capitaliste et dénué d'âme. Voilà, il faut arriver à trouver des compromis et à trouver un équilibre. Je ne gagne pas ma vie avec ma musique, mais je gagne de l'argent avec. J'ai plusieurs petits boulots alimentaires qui me permettent de continuer en attendant. Mais je pense qu'au final, je devrais trouver une manière de faire en sorte que ça marche, à condition que je ne perde pas mon âme.
Alors nous avons trouvé votre musique et diffusé votre musique parce qu'elles étaient sous licence libre, plus précisément Creative Commons by SA. Quel est votre rapport avec ces licences libres ?
Alors, en tant que musicienne, je suis douée pour faire de la musique, mais j'ai toujours été assez mauvaise avec la technologie et je ne comprends pas grand-chose à tous les détails et à tout ce qui se passe derrière. Quand vous m'avez contacté pour cette interview et que vous m'avez expliqué le principe des Creative Commons, je me suis dit « Ah, des termes que je ne comprends pas, mais je suis contente de pouvoir faire une interview et que ma musique soit accessible. » Alors après en avoir appris un peu plus à ce propos, j'imagine que la personne qui a mis les albums en ligne les a publiés sous licence libre et j'en suis très contente car je veux que ma musique soit accessible. Par contre, mon album Beaches in the Beehive ne l'est pas et je voudrais aller changer ça. Alors, après en avoir appris plus, je suis d'accord avec les principes et je veux publier ma musique de cette manière. Je découvre seulement tout cela et ce n'était pas vraiment un choix conscient. Et je suis contente qu'il ait été fait par la personne qui l'a fait car me voilà en train de faire cette interview avec vous.
C'est aussi un intérêt pour nous, parce qu'on est vraiment ravis en fait de pouvoir propager un petit peu cette idée de la libre circulation de la musique et que ça puisse voilà prospérer comme ça. Alors une dernière question, ce que nous allons diffuser après cette interview une de vos chansons, Lemony. Est-ce que vous pourriez nous parler justement de cette chanson?
Cette chanson, c'est vraiment du n'importe quoi, loufoque. Mais il y a un peu plus de profondeur qu'il n'y paraît. Un des outils d'écriture de chansons que j'utilise parfois, enfin, il m'arrive souvent de créer une mélodie très cool à la guitare et d'avoir du mal à écrire des paroles pour aller avec. Alors, je fais ce truc où je me contente de faire du remplissage. J'ai la mélodie en tête et pour ne pas m'embrouiller avec les mots, je remplis la mélodie avec n'importe quoi. Donc, sans raison particulière, je remplissais la mélodie avec le mot « lemony ». Et après, avec tous les mots qui venaient rythmiquement avec et qui rimaient à peu près avec « lemony ». C'était comme un de ces moments d'inspiration où tout semble s'aligner et cette espèce d'étrange flow absurde et cohérent a créé la chanson. Ce qui est amusant, c'est que souvent je réfléchis beaucoup aux paroles et je pense que c'est un des aspects les plus importants de ma musique et les gens sont touchés par mes paroles et réfléchissent sur ces choses assez profondes et philosophiques. Mais Lemony est souvent la chanson que les gens préfèrent. Enfin, Lemony est souvent une des chansons que les gens préfèrent parce qu'elle est si bête. C'est une chanson un peu bête et je l'aime. Et voilà, en fait, c'est tout ce que j'ai à dire à son sujet.
Je pense qu'on a besoin un petit peu de cette bêtise pour rendre la vie plus agréable aussi. Un grand merci, Minda Lessi. C'était vraiment un très grand plaisir d'échanger avec vous.
Oui, merci beaucoup de m'avoir reçu. C'est toujours très flatteur de recevoir un email inattendu venant d'un pays étranger qui te dit « On diffuse ta musique, viens faire une interview ». Ça n'arrive pas très souvent et ça me fait clairement me sentir appréciée. Vous appréciez ma musique et je vous apprécie pour ça.
De retour en direct sur Cause Commune. Donc merci encore à Laure-Élise Deniel d'avoir prêté sa voix pour enregistrer la version française. Et merci à Minda Lessi bien sûr. La version originale sera disponible sous peu sur le site de Libre à vous si vous voulez entendre la VO, comme on dit, la version originale. Donc comme évoqué, en fin d'interview, nous allons donc écouter Lemony par Minda Lessi. On se retrouve dans environ 2 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1.
too many lemons in my pie. The pie was lemon and lemon and lemon and too many lemons in my pie. And the chimney told me you ought to be what you want to be, or you may as well be asleep or cooking the amphetamines, cause Jiminy knows that amphetamines are good for a hell of a lot of things, like clearing up the skies and cooking them in pies. Amphetamines were taken by the anemones, and the anemones gave the amphetamines to the enemies, and this lemon the too many lemons in my pie. Too many lemons in my pie. Criminy Jiminy found me crammed up in the chimney. Must have been from all the yummy amphetamines he'd been a-giving me. And they were lemony, oh so lemony, that sunk right to the pit of me. And I thought that he was shitting me when he brought up the possibility of us finding the anemones to locate the enemies and reclaim our oh-so-precious abilities of making a lemony pie is just a bit less lemony. There are too many lemons in my pie. Too many lemons in my pie. The pie was lemon. Too many lemons in my pie.
Venons d'écouter Lemony par Midalesi, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions une mélodie, moi, qui m'évoque l'été, et ça tombe bien, nous sommes le 21 juin, jour de fête de la musique libre sur Libre à vous. Alors je vais préciser que la version que nous venons d'écouter est une version que Midalesi a enregistrée en solo, et il existe aussi une version enregistrée avec son groupe Bitches and the Beehive, qui est différente et très sympa aussi, que je vous invite donc à découvrir, même si elle n'est pas encore sous licence libre.
Nous sommes de retour en direct, ce coup-ci le 20 décembre 2022. Vous l'avez compris, c'était un sujet diffusé initialement le 21 juin 2022, intitulé « La fête de la musique libre ». Avant de poursuivre avec le sujet suivant, je vous rappelle que nous avons ouvert un questionnaire pour mieux vous connaître. Y répondre vous prendra 5 minutes et nous permettra d'évaluer l'impact de notre émission. C'est également une occasion pour vous de faire des retours et donc de nous aider à améliorer l'émission Libre à vous. Vous pouvez retrouver le questionnaire sur le site libreavous.org. Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous entendrons la chronique de Luc sur le thème « Vivre dans un monde meilleur ». En attendant, nous allons écouter une chanson de circonstances, « Joyeux Noël » par les Bernardos. On se retrouve dans environ 4 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune.
Éclairés, les sapins décorés, les cadeaux emballés, les bougies allumées, on va pouvoir fêter la fête de l'année. Puissent nos ennemis devenir nos amis. On s'amuse quand c'est Noël, y'a pas d'excuses, car c'est Je viens d'entrer chez moi, mais il fait toujours froid. On a coupé le gaz, car j'ai pas eu l'occasion de payer mes factures. Ça fait des mois que ça dure. Je n'ai plus de télé, le courant est coupé.
On s'amuse quand c'est Noël. Y'a pas d'excuses, car c'est
Pour la nativité, je me suis acheté une boîte de raviolis et quelques confettis. Des piles dans ma radio qui passe un adagio. C'est de la binoni, c'est vraiment très joli. On s'amuse quand c'est Noël. Y'a pas d'excuse car c'est sont mes raviolis, mais j'ai bon appétit. Grâce à un réverbère, j'ai un peu de lumière et je peux lire Zola ou Camus, j'ai le choix. Et sur la bande FM, on passe un requiem. On s'amuse quand c'est Noël. Y'a pas d'excuse car c'est bientôt minuit, j'allume ma bougie. Dans toutes les familles, on s'embrasse sous le gui. Pour embrasser quelqu'un, je prends donc mon coussin. Je fais comme si c'était une jolie fiancée. On s'amuse.
Écoutez Joyeux Noël par les Bernardos, disponible sous licence Art Libre.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons donc poursuivre avec la chronique La Pituite de Luc sur le thème un peu surprenant pour les personnes qui connaissent Luc ou qui ont l'habitude d'écouter ses pituites. Le thème est donc vivre dans un monde meilleur.
Pourquoi ne puis-je vivre dans un monde meilleur? Dans une vidéo promotionnelle par exemple. Ma vie serait simple, clic, clic, clic et hop, n'importe lequel de mes problèmes serait réglé. Plus rien de compliqué, juste des solutions faciles à des problèmes qui n'en sont pas vraiment. Les gens seraient beaux, avec des dents éblouissantes et aussi bien allumées et distribuées que si on leur avait collé la face dans Inkscape et fait CTRL majuscule A. Ils auraient un casque de téléphone vissé sur la tête, mais ils seraient toujours bien coiffés. Quelques slides présentant une poignée d'indicateurs nébuleux, dans de jolis graphiques, suffiraient à les convaincre aussi facilement que si j'étais ministre. Comment dire non à plus 30% de biens, un doublement du beau et une réduction drastique du pas cool? Ces gens avenants et sympathiques répondraient immédiatement quand je les appellerais au support, depuis ma spacieuse cuisine ensoleillée avec des enfants sages et souriants à mes côtés. Ils comprendraient instantanément mon problème et y apporteraient avec diligence une réponse pertinente et fiable. Pourquoi ce n'est pas possible? D'abord à cause de cette insupportable mélodie de ukulélé qui met ma santé mentale en péril. Parce que le paradis bien lisse est finalement pas si souhaitable que ça. Bien sûr que j'aimerais que la technologie règle toute seule les difficultés de l'existence. Mais c'est un mauvais calcul, parce que si j'ai un boulot, c'est bien parce qu'il y a des problèmes à régler. On ne me donne pas de fric juste pour mes beaux yeux presbytes, mais parce que je résous plus de problèmes que je n'en génère. Les développeurs l'ont bien compris, ils ne feraient pas autant de bugs sinon. Dans un monde sans bugs, on aurait moins besoin d'eux, ils seraient donc payés moins cher, ils devraient probablement maîtriser leur pilosité et mettre une chemise pour qu'on veuille bien d'eux. Mal travailler contribue donc à leur prospérité. Certains parviennent même à générer plus de problèmes qu'ils n'en résolvent, mais comme leurs chefs ne comprennent pas trop ce qu'ils font, ils gardent quand même leur emploi. En général, il y a dans toute entreprise humaine une part d'indécidable. Une zone de flou où on ne sait pas trop si c'est 0 ou 1. Or, pas mal de décideurs ont le plus grand mal à l'admettre. Ils préfèrent mettre en œuvre des procédés qu'ils pensent rationnels, mais qui ne tiennent pas debout, plutôt que de prendre leurs décisions à pile ou face, après avoir admis que, pour cette partie-là, ils n'en savent rien en fait. Dans le monde merveilleux des démos technologiques, on cache les zones d'ombre. On ment sans vergogne pour faire croire à des gens un peu paumés qu'ils font le meilleur choix. Le mensonge, quand il est servi sous une forme particulièrement séduisante, n'est que rarement éventé, justement parce qu'il est bien difficile à objectiver. Il y a donc un vrai avantage à mentir, ne pas mentir c'est perdre des opportunités de business. Mentir n'est même plus vraiment stigmatisant tellement l'acte est banal. Même quand on se fait choper, avec le pantalon sur les chevilles, il n'y a pas vraiment de conséquences sérieuses. Qui n'a pas vécu cette réunion bizarre où l'une des parties fait une déclaration alambiquée sur un ton péteux, qui signifie qu'elle a menti mais sans le dire? L'autre partie joue généralement le jeu pour ne pas faire perdre la face à la première et parvenir à continuer à bosser avec, sur les bases d'une confiance émoussée. Ça me laisse toujours un sentiment d'irréel, je sais que tu sais que je sais, mais on va faire comme si tout était normal. Quant aux personnes qui se laissent hypnotiser par ces démos, qu'elles soient des particuliers ou des décideurs surpayés, je rappelle en cette période de Noël que croire qu'il existe quelqu'un de sympathique et de généreux dont le seul objectif de vie est de nous faire plaisir est un peu régressif. Même sorti de HEC avec un sourire carré, le Père Noël n'existe pas.
Nous venons donc d'écouter la chronique La Pituite de Luc sur le thème Vivre dans un monde meilleur qui se finit un peu tragiquement, je trouve. Nous retrouverons Luc en 2023. Nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Chères auditrices et auditeurs, nous avons besoin de vous. Nous vous demandons simplement 5 minutes de votre temps. L'équipe de l'émission souhaite en effet vous connaître et vous propose un questionnaire. Vos réponses à ce questionnaire sont très précieuses pour nous. Elles nous permettront d'évaluer l'impact de notre émission et de mieux vous connaître. De votre côté, ce questionnaire est une occasion de nous faire des retours. Il est notamment particulièrement important pour nous d'avoir des réponses de la part de personnes qui nous écoutent sur la bande FM et en DAB+. L'émission du jour va se terminer dans quelques minutes. Et bien dès la fin de l'émission, prenez simplement 5 minutes pour répondre au questionnaire. Rendez-vous pour cela sur le site libreavous.org. Participez et ensemble continuons d'améliorer notre émission. Merci à vous. Alors dans les annonces du jour, nous avons des nouveautés sur le site de vente en ventelibre.org qui regroupe un certain nombre d'associations libristes et qui propose différents outils de sensibilisation ou simplement pour égayer la vie. Et nous proposons maintenant des sous-bocs ou sous-verts April, avec d'un côté le logo de l'émission de radio préférée Libre à vous, et de l'autre une invitation à utiliser les services libres proposés par notre Chapril, donc chapril.org, sur lequel vous pouvez trouver un certain nombre de services libres et loyaux. Donc vous allez sur le site enventelibre.org, vous recherchez l'association April et vous trouverez, vous pourrez commander ces sous-bocs ou ces sous-verts qui sont tout à fait jolis. Récemment ont eu lieu deux événements en lien avec le logiciel libre. Le forum PHP, PHP étant un langage de programmation, et le salon Open Source Experience. Les vidéos des interventions sont désormais disponibles. Il doit y avoir plus d'une centaine de vidéos qui vous permettront de découvrir différents aspects du logiciel libre. Et les liens utiles sont sur la page consacrée à l'émission du jour, donc sur libreavous.org/163, car c'est la 163e émission, avec notamment une vidéo que je vous conseille, que je vous recommande, c'est la présentation de l'April, promouvoir et défendre le logiciel libre pour une informatique plus éthique, dans laquelle vous aurez le plaisir de vous retrouver mes collègues Isabella Vanni et Étienne Gonu. Cause Commune vous propose un rendez-vous convivial chaque premier vendredi du mois à partir de 19h dans ses locaux à Paris au 22 rue Bernard Dimet dans le 18e arrondissement. Une réunion d'équipe ouverte au public avec apéro participatif à la clé. L'occasion de découvrir le studio, de rencontrer les personnes qui animent les émissions. La prochaine soirée rencontre aura lieu le vendredi 6 janvier 2023 et je serai présent à cet apéro, donc je vous rappelle, 6 janvier 2023 au 22 rue Bernard Dimet dans le 18e arrondissement de Paris. Je vous invite à consulter le site de l'agenda du libre, agendadulibre.org, pour trouver des événements en lien avec les logiciels libres ou la culture libre près de chez vous. Alors comme on a un petit peu d'avance, je vais faire d'autres annonces. J'en profite par exemple que vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, nous poser une question ou simplement nous laisser un message. N'hésitez pas à nous faire des retours. Le numéro du répondeur 09 72 51 55 46. Je vous rappelle également que la radio Cause Commune, La Voix des Possibles, diffuse sur la bande FM, sur 93.1 en Ile-de-France, de midi à 17h, puis de 21h à 4h en semaine, et le vendredi de 21h au samedi 16h, et le dimanche de 14h à 22h, tout simplement parce que nous sommes en fréquence partagée avec Radio Aligre. La radio diffuse également en DAB+, 24h sur 24, et évidemment partout dans le monde, sur le site causecommune.fm. L'émission et la radio, plus globalement d'ailleurs la radio, est une contributive. Donc n'hésitez pas à nous proposer des sujets, des musiques, des personnes à inviter. Vous pouvez contribuer à l'émission. Vous trouverez sur le site libreavoue.org les différents moyens de nous contacter. Et notamment, on vous propose, si vous souhaitez par exemple vous proposer pour une intervention sur un sujet qui vous tient à cœur, vous pouvez vous proposer. On verra si l'équipe choisit de traiter ce sujet-là. Et on peut même aller plus loin ensemble. Si vous avez une idée de sujet que vous souhaiteriez proposer et de le préparer et de l'animer avec des personnes invitées, également, vous pouvez nous le proposer. Nous étudierons votre demande et même si vous n'avez pas l'expérience d'intervention à la radio, si vous n'avez pas l'expérience de préparer ce genre de sujet, n'hésitez pas à vous proposer, nous vous accompagnerons. Et évidemment, nous gérerons la partie technique, c'est-à-dire la régie. Donc actuellement, aujourd'hui, c'est Isabella qui est à la régie, mais il y a également Thierry Olive, il y a moi, et puis il y a mon collègue Étienne Gonu. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur libreavoue.org. L'April participe à cette belle aventure que représente Cause Commune Radio Associative et la radio a besoin de soutien financier, notamment pour payer tout simplement les frais matériels. Le loyer du studio, la diffusion sur la bande FM, les serveurs. Nous vous encourageons donc à aider la radio en faisant un don, la période étant aussi propice, évidemment. Toutes les infos sont sur le site causecommune.fm. Vous pouvez également aider la radio en consacrant du temps. N'hésitez pas donc à contacter via le site causecommune.fm ou à venir vendredi 6 janvier 2023 à 19h au 22 rue Bernard Dimet dans le 18e arrondissement de Paris pour la soirée d'équipe. Alors, comme on prépare quand même les émissions avec un petit peu d'avance, je vais en profiter pour vous annoncer le programme un petit peu de rentrée. Donc je vais l'afficher devant moi. Donc aujourd'hui, c'est la dernière émission de l'année 2022. Nous reprendrons le 10 janvier 2023. Nous consacrerons le sujet principal à Aaron Swartz, ce militant des libertés informatiques et de la culture libre décédé malheureusement en 2013 à l'âge de 26 ans. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est G, notre chroniqueur, qui fera sa première préparation et animation de sujet principal. Donc ce sera le 10 janvier. Moi, je vous retrouverai le mardi 17 janvier sous un nouveau format de sujet principal qu'on a appelé Parcours Libriste. L'idée, c'est d'avoir une seule personne invitée et d'échanger avec cette personne sur son parcours depuis le plus jeune âge. Qu'est-ce qui l'a fait amener à l'informatique, au logiciel libre, etc. Et c'est avec un grand plaisir que notre première invitée sera Françoise Conil, qui est ingénieure en développement logiciel au CNRS, et que j'ai découverte en fait via un portrait dans un livre qui s'appelle Les décodeuses du numérique, qui a publié l'an dernier les éditions du CNRS. Donc on mettra la référence sur le site de l'émission, sur libreavoue.org. Mais sinon, vous recherchez sur vos moteurs de recherche préférés les décodeuses du numérique. Mardi 24 janvier, nous parlerons d'une chaîne éditoriale pour créer des documents qui s'appelle Scénari. L'émission sera animée par Laurent Costi et ultérieurement, nous parlerons également aussi d'un rapport récent qui traite des GAFA, mais notamment donc Google, Amazon, Facebook et compagnie. Donc ces géants du web qui se gouffrent de nos données personnelles et un rapport qu'on a publié sur le site april.org, on a publié une actu, qui détaille en fait les dépenses en lobbying de ces mastodontes de l'Internet. Nous aurons le plaisir d'avoir deux des journalistes qui ont écrit ce rapport. Ce rapport s'appelle GAFAM Nation. Vous pouvez le retrouver sur april.org. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. G, Luc, Thibaut Dallery, Corentin, Mindalessi, Laure Élise Déniel, Étienne Gonu. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Isabella Vanni. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Élodie Daniel-Giraudon, Languin, Julien Haussmann, bénévole à l'April, Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi à Quentin Gibeux, bénévole à l'April, qui découpe le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur notre site web libreavoue.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact@april.org. Si vous préférez nous parler, vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou nous poser une question. Le numéro du répondeur, 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. C'était la dernière émission donc de l'année 2022. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous reprendrons mardi 10 janvier 2023 à 15h30. Notre sujet principal portera sur Aaron Swartz, informaticien militant des libertés informatiques et de la culture libre, décédé malheureusement le 11 janvier 2013 à l'âge de 26 ans. Alors malgré le contexte qui est un petit peu morose, nous vous souhaitons ainsi qu'à vos proches une belle fin d'année et de bonnes fêtes. Avec un peu d'avance, nous vous souhaitons également une belle année 2023, que la nouvelle année soit sereine et douce à tout point de vue, pour vous-même et vos proches. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 10 janvier 2023. Et d'ici là, portez-vous bien.